Interview.
Okay, the bird.
L'interview du jour.
Bonjour, ici Erdivois pour l'interview, émission que vous écoutez sur les ondes FM en 107.5 et sur le 101.7 à Luc-en-Diois. L'émission est aussi mise en podcast sur le site internet www.rdwa.fr. Au studio aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Marie Marquet, bonjour.
Bonjour.
Et de Jean-Claude Rouchouz, bonjour.
Bonjour à tout le monde.
Voilà, tous deux, vous êtes membres de l'association Sources et Racines et vous êtes ici pour nous présenter le week-end du 3 au 5 juin et où aura lieu donc ce rendez-vous au jardin sur diverses parcelles du territoire. Il y aura les jardins de Sainte-Croix et il y aura les jardins de l'Aube et le jardin botanique de l'Aube et dans le jardin du Perrier également. Cette année, il y a une thématique abordée hein, par cette initiative nationale et qui s'intitule « Jardin, biodiversité, alimentation et changement climatique ». Quel est votre intérêt justement dans cette organisation? Qu'est-ce qu'il y a à prévoir?
Pour les rendez-vous au jardin, chaque année en fait, on participe pour rendre visible un peu le travail sur les jardins et aussi les enjeux de biodiversité, de territoire. Et cette année, donc, il y a cette thématique sur les changements climatiques. Et effectivement, on a donc trois journées différentes. Une journée avec les jardins nourriciers qui aura lieu en Vallée de Quin, où ils vont aborder ce sujet plutôt du point de vue de leur modèle agricole associatif, donc avec des propositions de concrètement produire son alimentation à échelle courte, à distance locale, etc. Après, donc, les potagers rares qui proposent eux, un programme le samedi. Donc, eux, ils vont présenter leur jardin et des problématiques plutôt de comment mettre en œuvre un jardin sur sol vivant, économiser l'eau, donc d'adaptation au changement climatique, avec aussi une présentation du bokashi, qui est une technique de valorisation des sols. Et puis, nous, le dimanche, on va aborder cette question plus sur un volet, on va dire, scientifique, avec à la fois la biodiversité naturelle et ce qui se passe pour elle dans les jardins à l'heure du changement climatique, et aussi un retour un peu historique sur la manière dont les jardins ont évolué et qu'est-ce que ce changement va entraîne dans les usages, dans les pratiques des jardins. Voilà.
À l'heure actuelle, il y a cet abord de l'eau. Ça devient chaque année un souci, l'été. Est-ce que les choses évoluent dans ce domaine?
Il y a de plus en plus d'études sur les différentes manières d'économiser l'eau. Donc, en effet, dans le cadre de ces réunions sur le jardin, il y aura des informations sur comment économiser l'eau. Il y a un problème de sécheresse dans le Diois, avec heureusement tout de même le Vercors qui est quand même plus humide, plus riche en eau et qui apporte quand même une certaine quantité d'eau sur le Diois. Mais il y a quand même des problèmes de sécheresse pour le Diois qui s'accentuent quand on va plus au sud.
Et qui vont certainement devenir récurrents. Donc toutes les réflexions qu'on va proposer, en fait, elles permettent d'un côté de se rendre compte des possibilités, de l'autre côté de mesurer ce que ces impacts ont sur l'environnement, donc avec un volet notamment sur l'atlas de biodiversité communale qui sera présenté donc, le dimanche 5 juin, avec l'idée de se rendre compte déjà où on en est, qu'est-ce qu'on a comme biodiversité et quelles sont les espèces qui sont peut-être en souffrance avec le changement climatique. Il y a aussi l'idée de regarder sur l'histoire plus ancienne, même au niveau de la géologie, au niveau des usages anciens, comment ont été constitués ces jardins et du coup, quelles sont leurs fragilités, mais aussi quelles sont leurs forces. Comment on peut aussi reprendre contact avec des pratiques peut-être anciennes ou en tout cas une certaine connaissance du sol, ce qui permet de mieux travailler la terre, moins prendre de risques du point de vue de leur biotope et de maintenir un peu d'humidité dans des endroits qui vont devenir secs.
L'avantage du Diois et du Vercors, c'est qu'il y a une biodiversité très importante. Il y a plus de 2000 espèces végétales dans le Diois et dans le Vercors. Il y a près de 800 espèces de champignons. Donc c'est un peu exceptionnel. Mais en effet, pour les jardins, il y a en effet un problème de sécheresse.
Il y a les insectes aussi. Comment peut-on constater justement la vie ?
Il y a bien sûr des insectes, des papillons, mais par contre, depuis, mettons, une dizaine d'années, on observe une diminution des nombres d'espèces d'insectes et même une extinction de certaines espèces de papillons. Moi, personnellement, je pense que c'est lié aux pesticides. Qui pose un grave problème parce qu'on a toujours des agriculteurs dans le département qui continuent à utiliser des pesticides et des fongicides, ce qui a à coup sûr des conséquences concernant les insectes et en particulier il y a des espèces de papillons comme les grands sphinx que l'on ne voit plus.
Et juste sur notre programme, du coup, justement, tout le dimanche, il y aura donc la présentation d'outils de sciences participatives qui permettent, par exemple, de faire l'inventaire des insectes qu'il y a dans votre jardin et de partager cet inventaire. Donc, c'est un des objectifs de cet atlas de biodiversité communale, c'est justement de permettre à chacun de participer, de collecter ces infos, d'observer les insectes. Et donc, il y aura un accueil avec la présentation d'outils pour que les gens puissent le faire eux-mêmes. Et puis, il y aura aussi Alison Marchal-Adjé qui va partager, elle, des petites balades autour de cette histoire de biodiversité dans les jardins.
Autour de cet événement, il y a donc les jardins de Sainte-Croix, il y a les jardins de l'Aube, les potagers Gérard et vous, Sources et Racines, en partenariat. C'est un partenariat qui se prolonge tout au long de l'année aussi.
Alors, c'est plus, on va dire qu'on est plus dans des relations de voisinage et d'échange, mais plus informel. On a des liens. Alors, avec les potagers Gérard, on occupe un espace qui est très proche. Donc, on va avoir à gérer ensemble justement des histoires liées à l'eau, liées à l'espace. Mais on a cette occasion-là dans l'année pour vraiment faire un peu synergie. Et ça, c'est très chouette. Et ça a toujours été le cas. Donc, on est assez attaché à cet échange. Et puis, avec les jardins nourriciers, on a des liens aussi assez personnels, assez proches, même si eux, ils sont sur un autre territoire et avec des problématiques un peu différentes. Eux, ils sont sur la production alimentaire, alors que nous, on est sur la pédagogie, sur la transmission. Mais en fait, du coup, justement, ça nous permet de se renvoyer les uns les autres à nos domaines réciproques. Donc, c'est très positif. Et puis là, pour ce programme, je tiens à dire aussi qu'il y a donc l'écologie au quotidien qui participe sur une balade, la Confédération paysanne qui participe sur la conférence causerie de la fin de journée le dimanche, qui parlera d'agriculture et de changement climatique. Donc écologie au quotidien, ce sera Claude Verret qui parle d'une lecture de paysages et des arbres. Voilà, et donc le parc du Vercors avec cet inventaire de la biodiversité communale qui sera là aussi représenté par Rémi Abel-Coindos. Donc on a plusieurs personnes extérieures qui représentent d'autres structures et qui vont intervenir également.
Et l'association Sources et Racines a créé un jardin de plantes médicinales et tinctoriales au quartier de l'Aube, derrière l'école Chabestan de Die, en visite libre. Donc les gens peuvent venir, il y a des panneaux explicatifs, c'est tout à fait mis en place.
Oui, c'est le lieu d'ailleurs de la fête. C'est sur ce lieu que se tiennent ces activités dont nous parlons.
Du 5 juin.
Voilà.
Alors, on va revenir au vendredi 3 juin, ce premier jour, avec donc les jardins nourriciers de Sainte-Croix, spécialisés plus dans le jardin potager. Jardin alimentaire, en quelque sorte. Et il fonctionne aussi sur un modèle agricole associatif. On peut peut-être brièvement présenter ce mode de fonctionnement.
Alors effectivement, bon, ils seront peut-être plus indiqués certainement dans une autre occasion de détailler leur parcours. Mais justement, là, c'est l'invitation qu'ils font, c'est de venir justement pour visiter leur jardin. Comprendre qu'en fait, leur projet à eux, c'est sur des terres qui sont, disons, prêtées, qui étaient non utilisées sur des terres agricoles, mettre en place des jardins qui sont jardinés par des personnes qui vont, de ce fait, gagner des points, en fait, et être payées de leur travail en légumes. Donc, il y a tout un volet animation, un volet de transmission qui est assuré par deux salariés, Tim et Camille. et qui sont donc les personnes ressources qui vont à la fois faire fonctionner cette activité de jardinage participative et puis aussi produire des légumes pour pouvoir les vendre dans un petit marché qui se tiendra à Sainte-Croix. Et donc là, sur le programme, d'un côté, ils vont présenter donc leur modèle, il est très particulier. Donc, ils vont présenter ce modèle particulier et vraiment inviter les gens à essayer, à se rendre compte. Et ça, c'est de 9h à 12h. Et ensuite, bon, l'après-midi, les gens seront libres de profiter de la rivière, de manger sur place, etc. Et à 17h, ils font leur premier petit marché associatif qui aura lieu à Sainte-Croix. Donc, du coup, les gens peuvent rester et profiter aussi des légumes, voir un peu l'ambiance du marché. Donc, il y a vraiment les deux volets qui seront proposés ce jour-là.
On passe à samedi 4 juin. Donc, ça se passera au Jardin de l'Aube avec les potagers rares. Alors, c'est une journée qui commencera à 14h. Et qui se terminera à 18h avec un apéritif et une scène ouverte en plus à la suite. Alors là, ça sera aussi des jardins qui sont plutôt sous quel aspect ?
Alors les potagers rares, donc nos voisins, bah, c'est donc des parcelles familiales qui sont donc prêtées aux gens. Et du coup, il y a tout un questionnement qui sera partagé sur cet après-midi sur des modes agricoles qui vont être adaptés au changement climatique. Donc, ils vont présenter ces différentes pistes de travail sur lesquelles certains d'entre eux se sont formés. Et puis, je pense qu'il y aura certainement des échanges entre participants autour des problématiques qui se posent collectivement.
Donc, à 14h, il y a une visite et une présentation par Jean-Pierre Gall. On peut peut-être présenter ce monsieur ?
Jean-Pierre Gall, qui est donc le président de l'association des potagers rares.
À la suite, par Nicolas Lesage, il y aura jardiner sur sol vivant. Alors là, c'est intéressant aussi à savoir comment maintenir ce sol vivant, j'imagine.
Oui, avec tous les enjeux, effectivement, de garder la microfaune, la pédofaune, de ne pas trop ni effectivement utiliser des produits, enfin surtout pas utiliser des produits, mais pas non plus trop désherber, pas non plus trop assécher le sol dans le contexte du changement climatique.
Et l'importance des vers de terre, parce qu'on oublie l'extrême importance des vers de terre pour que un sol vivant, c'est un sol avec des vers de terre.
Ensuite, il y aura un stand d'échange autour de l'économie sur l'eau du jardin. Alors ça, il y a beaucoup de gens de leur côté qui travaillent sur ce sujet. Le premier, c'est de récupérer les eaux de pluie hein, avec des installations de tonnes d'eau. Qu'est-ce qu'il y a comme autre principe ? Il y a des bassins également ?
En tout cas... ce qui est sûr, c'est qu'effectivement, suivant la topographie, il y a plein de possibilités, mais il faut quand même bien avoir en tête que là, il y a aussi un enjeu colossal, notamment pour ce jardin des potagers rares et le nôtre, celui de Sources et Racines. Parce qu'en fait, on est dans une situation où là, on n'a plus d'eau régulièrement. Avant, on avait un surplus de fontaines qui permettait une partie de l'arrosage, donc qui était récupéré, mais maintenant, les fontaines sont coupées. Donc effectivement, les réflexions, c'est à la fois les pompes sur nappe phréatique qui posent plein de questions et qui ne sont pas forcément une solution pérenne. C'est le canal à réhabiliter, qui n'est pas non plus complètement certain de durer dans le temps. Et puis, c'est la récupération d'eau de pluie dans les toits riverains, mais avec tous les enjeux de stockage, de volume qui sont quand même compliqués. Donc, et puis, il y a à ne pas avoir besoin d'eau, donc effectivement, pailler, protéger les sols, avoir des couverts végétaux qui permettent d'éviter l'évaporation. Mais bon, donc je suppose qu'on pourra débattre de ces sujets samedi.
Normalement, il y a une possibilité d'approvisionnement en eau à partir de la Maigre Rosse. Mais il y a un problème de mauvais état des canaux d'irrigation. Voilà. Donc il y a un problème assez important. Mais potentiellement, la Maigre Rosse a toujours de l'eau et il peut y avoir l'utilisation de l'eau de la Maigre Rosse.
Oui.
Après, il y a un niveau minimal de
Il y a un débit réservé. Il y a un débit réservé.
OK, bon. Voilà. Ouais. Allez, on va passer ensuite à 17h. Ah non, je voulais parler aussi de la technique du bokashi. Alors ça sera par Raphaël Rougy. Ça consiste en quoi, cette méthode ?
Alors, il va nous expliquer. Hein. Donc, j'invite tout le monde à venir voir. Donc, en fait, l'explication, très bref, c'est de dire le bokashi, c'est une forme, on va dire, de développement de micro-organismes. Donc, c'est la mise en culture de micro-organismes qui vont, un peu comme dans le principe du compost, mais de manière un peu plus élaborée, venir nourrir le sol, faciliter la décomposition et permettre de garder un sol très vivant. Donc Raphaël nous présentera ça à 16 heures, à 10, entre 16 et 18 heures. Et puis après, il y a une chorale qui vient chanter des Balkans et qui va animer un peu le jardin et jusqu'à ce que ce soit l'heure de l'apéro.
Ils viennent spécialement des Balkans
C'est toute une bande de Diwas qui travaille ce répertoire.
Voilà, et puis ça se terminera avec une buvette aussi, à prix libre, tout l'après-midi. Ensuite, dimanche 5 juin, ça sera au Jardin botanique de l'Aube et dans les jardins du Perrier, à Die, donc deux voilà. Lieux séparés.
Oui. Oui, le lieu est le même, hein. c'est le quartier de l'Aube, donc au Jardin de plantes médicinales et tinctoriales, derrière l'école Sabestan, qui est au boulevard du Ballon, à Die. Hein, c'est à Die. Donc tout le dimanche 5 juin se passe... dans ce quartier de l'Aube. Hein. Donc ça commence à 9h avec un petit déjeuner, l'accueil, la rencontre des personnes. Et puis de 9h30 à 10h30 par Alison Marshall-Adger, c'est une information sur la biodiversité au jardin, parce que les jardins du Perrier sont très variés. Hein. Parce qu'il y a au moins une centaine de parcelles. Les gens n'ont pas les mêmes méthodes de culture. Il y a des plantes qui arrivent spontanément. Donc, il y a une biodiversité telle que, en fait, on la connaît même assez mal, tellement c'est varié.
D'ailleurs, juste comme ça, dans les jardins du Perrier, comme on dit, il y a une centaine de parcelles, avec chacun sa technique. Ouais. Il y a celle de la pelouse verte, parfaite. Ça, c'est une méthode de jardinage, en comparaison à d'autres. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a une telle différenciation. Qu'est-ce que ça produit dans l'ensemble, sur ce secteur, au bout d'un moment? Est-ce qu'il y a des bouleversements, ou les choses vont comme il faut?
Il n'y a pas trop de bouleversements, parce que les jardins sont entretenus, à part quelques-uns, mais assez rares, qui sont en état d'abandon, mais rares. Donc la plupart des jardins sont soigneusement entretenus, mais chaque jardinier a ses méthodes, donc il n'introduit pas les mêmes plantes. Il y a des plantes qui arrivent toutes seules, qui quelquefois sont enlevées, d'autres fois non. Il y a des jardins où en fait il y a plus de jardins, et c'est des chevaux qui viennent pâturer. C'est très varié.
En fait, cette diversité, c'est justement ce qui est intéressant. Et un des thèmes de la journée pour nous, sur ces racines, ce sera aussi de parler de la manière dont le territoire connaît différents usages. Et dans le temps, il y a eu des changements dans les usages. Et aujourd'hui, il y a différentes approches. Voilà, donc ça, c'est ce qui nous intéresse.
Alors, il y a quelques petites mares, mais pas beaucoup. Mais il y en a quelques-unes, donc qui font qu'il y a aussi quelques grenouilles. Et, voilà.
Il y a quelques animaux aussi.
Il y a quelques animaux. Il y a bien sûr des animaux sauvages. Hein, il y a des blaireaux qui peuvent passer, des renards. Oui, bien sûr. Et beaucoup d'oiseaux. Beaucoup d'oiseaux diversifiés.
À la suite, donc après cette découverte de la biodiversité des jardins, il y aura entre 10h30 et midi une balade aussi sur les paysages entre passé, présent et futur. Alors ça, est-ce qu'on peut peut-être développer ça? Ça sera opéré par Claude Véret, hein, d'Écologie au quotidien.
Oui, alors Claude a proposé une balade qui consistera en, je pense, son fil conducteur, ce sera les arbres. Voilà, et il avait envie donc de travailler plutôt sur un récit sur le paysage, sur la manière dont les choses effectivement se sont mises en place, se sont transformées.
Oui, il y a une trentaine d'espèces d'arbres, hein. donc on peut en effet parler. Vous avez des érables, il y a le seul arbre qui manque, c'est le châtaignier parce qu'il n'aime pas le calcaire. Mais sinon, on a une grande variété, des genévriers, des cyprès, c'est très varié.
Qui tendent à produire au moins?
Alors, il y a beaucoup d'arbres fruitiers, bien sûr. Hein, il y a une variété d'arbres fruitiers qui ont été peu à peu introduits parce que ces jardins existent depuis très longtemps. Très longtemps. Donc, il y a une bonne variété d'arbres fruitiers.
On passe ensuite, à partir de 14h, il y aura des stands tout l'après-midi. Et donc, le premier consiste toujours à la découverte de la biodiversité au jardin, toujours avec Alison Marshall-Adler. Et oui. Donc, ces stands seront le moment aussi d'échanger, de découvrir, avec aussi des démonstrations.
Ben oui, il peut y avoir, on peut montrer des plantes. Et on peut expliquer aux personnes quelques fondamentaux de la botanique, comment on décrit une plante, quelles sont les grandes catégories de plantes. Ça peut se faire, bien sûr. Et puis l'histoire ancienne des plantes, parce qu'il faut quand même savoir que les plantes à fleurs existent depuis 110 millions d'années. Hein, donc il y a aussi une histoire ancienne des plantes.
Et peut-être pour compléter, effectivement, donc Alison va donner des ateliers sur sa thématique de la biodiversité, mais ce sera différent de sa balade du matin puisqu'elle va proposer quelque chose dans le périmètre du jardin pour que toutes les personnes qui passent puissent prendre un morceau de cette histoire qu'elle va raconter, de ses propositions d'observation. Et en parallèle, il y aura donc ce stand de l'Atlas de biodiversité communale avec des outils de sciences participatives. Et donc, il va y avoir vraiment aussi des outils qui seront sur place à disposition avec des personnes pour expliquer comment on peut les utiliser pour faire soi-même un inventaire dans son jardin, une reconnaissance dans sa haie, même un inventaire pas forcément dans son jardin. Si on n'a pas de jardin, ça peut être sur un chemin communal ou dans la forêt adjacente. Donc, il y a vraiment cette idée de proposer des temps d'accueil sur le jardin pour découvrir des outils, des manières de voir sur place.
Et là, la personne qui intervient, c'est Rémi Abel Coindos, qui fait partie du parc du Vercors. Donc, en même temps, il peut donner des informations sur la végétation du Vercors, qui est différente, parce que le Vercors est quand même beaucoup plus en climat alpin que le Diois, qui, lui, a un côté méditerranéen. Donc, là aussi, il y a des informations à avoir.
Qu'est-ce que permet ensuite la connaissance de son territoire et de sa biodiversité ?
C'est un enrichissement incontestable. Ça permet d'approfondir ses connaissances en botanique et puis et aussi quand même de faire attention, parce qu'il faut quand même savoir qu'il y a des plantes toxiques, mortelles parfois, hein. Donc, il y a des connaissances à avoir. Il n'y a pas que les champignons qui peuvent vous empoisonner, il y a aussi des plantes. Donc, ça, c'est aussi un élément important.
Ça sert aussi, je pense, à... Là, on est sur un territoire qui est en mutation un peu en permanence. Toutes les choses vont vite. Il y a aussi beaucoup de personnes qui arrivent de l'extérieur, qui doivent découvrir de manière un peu plus intime l'univers dans lequel ils se sont installés. Il y a des gens qui sont là depuis longtemps, mais qui n'ont pas forcément toujours eu l'occasion dans leur vie d'aller au-delà de leur connaissance, dans leur périmètre, et qui sont contents on a tous en fait envie d'approfondir nos connaissances, ce qui nous permet, je pense, aussi de mieux préserver un équilibre qui est assez fragile et qui, en ce moment, justement, avec le changement climatique, très probablement est à un tournant, c'est-à-dire que soit on arrive à effectivement maintenir dans nos pratiques une attention sur ce qui va permettre à d'autres espèces de fonctionner sur le territoire, soit on est dans un rapport humain très prédateur, on couvre les espaces de bitume, on construit un peu partout, on a envie de transformer son jardin en résidence secondaire et à la fin... Eh bien, finalement, peut-être que les jardins ne seront plus des jardins et le territoire sera peut-être plus rural. Donc, c'est aussi par la connaissance, par la conscience du fait qu'il n'y a peut-être pas ça ailleurs, en fait. Même si là, il y a beaucoup, il n'y a peut-être pas ça. Il n'y a peut-être pas tout ce qu'on voit ici ailleurs, qu'on s'y attache et que du coup, on a envie d'en prendre soin aussi.
Alors, les jardins du Perrier sont en zone non constructible, hein, parce que c'était une ancienne zone inondable. Elle est difficilement inondable parce que la Drôme a creusé son lit, mais ça reste quand même une zone inondable, donc il faut faire attention, il faut bien connaître. La Drôme reste une rivière torrentielle dangereuse.
Et puis peut-être juste pour une dernière chose pour compléter sur le jardin, c'est vrai que les jardins, il faut imaginer qu'en fait le sol d'un jardin, pour qu'il se constitue, en fait, c'est des années et peut-être même des siècles de travail. Et que quand on va au Perrier, là où ça a été jardiné pendant plusieurs siècles d'affilée, la qualité de la terre, elle n'est pas la même qu'ailleurs. Et ça, c'est lié au travail. Et quelque part, ça se voit moins qu'une cathédrale. Mais il y a eu autant d'heures de travail et de transformation sur un sol de jardin pour qu'il devienne ce qu'il est que dans une construction peut-être plus spectaculaire. Et c'est ça aussi qu'il faut partager. C'est le fait que c'est pas seulement parce qu'il était comme ça au départ, mais aussi parce qu'il y a eu plein de générations de gens qui ont valorisé ces sols, qui ont mis des, qui ont amené du fumier, qui ont transformé des choses pour que les sols de jardin sont particuliers. D'ailleurs, ils n'ont pas le même pH qu'un sol naturel. Hein. Ils sont différents.
La suite de ce dimanche, à partir de 15h, il y aura une partie par vous, Jean-Claude Rouchouz, oui, qui sera présentée sur l'histoire ancienne et géologique des jardins de la Drôme. Alors, en quoi consistera cette présentation ?
C'est une information générale sur la géologie du Diois, hein, parce que le Diois, toutes les couches géologiques du Diois sont des sédiments marins, du Jurassique et du Crétacé. Et bien sûr, la géologie est importante parce que un sol qui est sur du calcaire n'est pas le même qu'un sol qui est sur des marnes. Donc, on ne peut pas comprendre la géographie sans connaître la géologie. Et on peut difficilement comprendre la végétation et la botanique sans avoir des connaissances géologiques.
Il y a une notion de cet âge de ce jardin ?
Il existe depuis le Moyen Âge. Hein. Alors peut-être même du temps des Romains. Hein. On n'a pas, à ma connaissance, de documents sur romains sur les jardins du Perrier. Hein. Mais comme Die est une ville gallo-romaine, et à coup sûr, il y avait du jardinage autour de Die, c'est certain.
À la suite, à partir de 16h, Marie, tu présenteras le jardin d'hier et d'aujourd'hui en balade.
Oui, alors en fait, c'est dans le prolongement de ce que Jean-Claude va proposer. Essayer de justement avoir plutôt une approche un petit peu contextuelle, c'est-à-dire en fonction de ce qu'on verra au cours de la balade, raconter les différents usages anciens qu'il y a pu y avoir dans les jardins. Parce qu'en fait, c'est effectivement, comme dit Jean-Claude, peut-être qu'à l'époque romaine déjà, comme c'était une zone alluviale, on devait la cultiver. Mais par ailleurs, on y a aussi planté des arbres, on y a cultivé des espèces dont on avait besoin, on y a aussi utilisé certains périmètres pour des activités un petit peu plus industrielles, enfin pas industrielles, mais artisanales à grande échelle. Donc en fait, il y a des choses comme ça qu'on pourrait mettre en résonance avec ce que sont les jardins aujourd'hui. Et c'est une balade qui sera peut-être pas très longue, peut-être j'ai mis jusqu'à 17h, mais on va faire plutôt court, mais avec l'idée d'un échange. Donc on sera ensemble avec Jean-Claude, donc je vais suivre sa balade et on prolongera avec cette ouverture sur aussi qu'est-ce qu'on en fait aujourd'hui, quels sont les différents usages, tous les enjeux qu'il y a pour nous tous.
Et donc là, nous arrivons à 17h, il y aura cette conférence causerie donc, sur l'agriculture et le changement climatique. Ce sera animé par Vincent Baltara de la Confédération Paysanne.
Oui, alors l'idée qu'il a, c'était de faire vraiment un tableau de la réalité des enjeux et des impacts de l'agriculture sur le changement climatique. Donc d'une part, les impacts qu'a l'agriculture telle qu'elle fonctionne aujourd'hui et les enjeux de transformation, de mutation pour l'avenir, pour pouvoir enrayer tout ça.
Oui, il y a eu une grande évolution. Hein. Il faut quand même rappeler qu'au XIXe siècle, la population d'Ioise était beaucoup plus importante que maintenant, que c'était déboisé de partout et qu'à partir de Napoléon III, il y a eu un reboisement massif avec plus de des millions d'arbres et des dizaines de tonnes de graines qui ont été plantées. Donc ça s'est reboisé et maintenant on est dans le Diois, dans une région qui est boisée, mais avec des secteurs de jardins qui sont restés, en particulier le long de la vallée de la Drôme.
Voilà, donc oui.
Juste pour préciser qu'on finit par un apéro partagé et qu'on espère qu'on sera nombreux pour terminer cette journée, puis peut-être discuter, échanger un peu, parce que c'est une occasion avant l'été de tous se croiser entre jardiniers, entre habitants et occupants de la ville, entre personnes du Perrier. Donc on aimerait vraiment bien qu'il y ait du monde pour pouvoir échanger aussi, qu'il n'y ait pas que des choses transmises, mais aussi des retours. Et sur notre invitation, que ce soit le matin à 9h du matin, donc au petit déjeuner, ou le soir pour l'apéro à 18h, l'idée, c'est aussi que ça peut être l'occasion justement d'avoir des nouveaux projets communs, des synergies. Donc, c'est aussi un moment de rencontre qu'on propose. Ce n'est pas que des conférences descendantes, mais c'est aussi des moments d'échange.
Ces rendez-vous chaque année, ces rendez-vous au jardin, permettent justement des rencontres avec des personnes nouvellement arrivées. Est-ce que aussi, tout au long de l'année, vous percevez une demande de parcelles de manière à pouvoir jardiner pour des personnes qui s'installent ? Et est-ce que c'est une grande difficulté à l'heure actuelle ?
Honnêtement, nous, on n'est pas très bien placés pour répondre parce que les parcelles, ce n'est pas nous qui faisons ça. Après,
non, ce que je veux savoir, c'est est-ce que dans les propos, vous ressentez une demande de la population à accéder à des jardins ?
Oui,
parce qu'il y a des personnes assez nombreuses qui veulent s'installer dans le Diois et souvent, elles recherchent une maison avec jardin, ce qui est de moins en moins facile à trouver. Mais il y a en effet une demande, et souvent les gens veulent un jardin.
Ce qui est intéressant, c'est peut-être de dire que justement l'exemple des potagers Gérard ou d'autres jardins familiaux montre qu'en fait, parfois être à plusieurs et être sur des terrains qu'on partage et être sur des formats comme celui des potagers, des jardins nourriciers aussi, c'est intéressant parce que en fait, finalement, ça permet des rencontres, ça permet de la synergie. Il y a des choses en fait qu'on fait plus facilement à plusieurs. Et donc, ça peut peut-être remonter le moral à ceux qui ne trouvent pas de maison avec jardin de se dire que des fois, trouver un lieu collectif, contribuer à un projet commun, ça peut être aussi une belle alternative.
Et on peut souligner aussi l'apport positif de nombreux Néerlandais qui se sont installés dans le Diois et qui ont apporté des connaissances en particulier concernant les plantes médicinales. C'était un côté positif extrêmement important.
Eh bien voilà, ce programme de ce week-end du rendez-vous au jardin qui aura lieu donc à partir de vendredi jusqu'à dimanche sur Die et sur Sainte-Croix également. Et puis, pour connaître un peu en détail ces rendez-vous, est-ce qu'il y a un accès à l'information, que ce soit sur le net ou est-ce qu'il y a des dépliants sur l'information ?
Alors, les rendez-vous au jardin, c'est donc un événement national et on est donc représenté sur le site des rendez-vous au jardin, qui est, à mon avis, on tape rendez-vous au jardin et on tombe dessus directement. Après, il faut chercher Die, Drôme, et vous trouverez donc ce programme c'est Source et Racine qui publie le programme pour tout le monde, là pour tous. Donc, du coup, je pense qu'on est visible par ça. Peut-être les potagers Gérard ont aussi un accès avec leur nom. Enfin, en tout cas, ce n'est pas difficile de trouver. Voilà. Et sinon, Source et Racine a aussi un site et sur lequel il y a également le programme. Il y a un Facebook de Source et Racine sur lequel il y a encore le programme. Il est aussi affiché dans les rues. Il est affiché au jardin. Et je reprécise la position de ce jardin, donc le jardin de l'Aube. C'est un chemin qui part juste en face de l'école Chabestan, enfin du parking du bas de l'école Chabestan. Donc une porte qui donne dans les jardins et quand on accède par ce petit chemin qui est un chemin de terre, ça s'appelle le chemin de l'aube, on tombe sur une serre et puis là, il y a les cabanons que l'on partage avec les potagers Gérard. C'est là que se tiendront les potagers Gérard le samedi, c'est là que nous nous tiendrons avec toutes les autres associations citées le dimanche, et c'est très facile d'accès, et c'est à 2 minutes du centre-ville.
Et c'est là où il y a le jardin de plantes médicinales et tinctoriales pour teindre les textiles. Donc, il est tout à fait facilement accessible.
Il y aura un panonceau, j'imagine, de toute manière. Oui. Voilà. Eh bien, Marie Marquet et Jean-Claude Rouchouz, je vous remercie tous deux d'être venus sur Air Diois pour nous parler de ces rendez-vous au jardin. Et je vous souhaite une bonne soirée.
Merci.
Au revoir.
Merci beaucoup.